Comment devenir moins con, nous les mecs? Bienvenue dans Soif de sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider, toi, à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Quentin Delval pour parler de comment devenir moins con en tant qu'homme. Alors, je te présente en 10 secondes. T'as 44 ans, t'es expert sur les questions d'inclusion et de diversité. T'as notamment été formateur en prison, chercheur universitaire et au sein d'organisations pour la diversité et l'inclusion. Et tu as une quête personnelle où tu tentes en toute humilité de devenir moins con jusqu'à publier un livre, Devenir moins con en 10 étapes. Pour qui nous écoute, même si tu frappes pas ta chérie ou que t'as violé personne, c'est-à-dire la majorité des mecs, ça n'empêche pas qu'on a tous des comportements où l'on abuse un peu de notre masculinité au détriment des femmes et parfois aussi de nous-mêmes. Ça peut être quand ta chérie t'engueule, parce que tu fais rien à la maison, donc tu fais des efforts 15 jours, puis retour à la normale. Quand tu t'es jamais posé la question de la contraception avec tes partenaires, ou que t'oses pas parler de tes émotions à ton enfant. Bref, j'ai tellement kiffé ton livre qu'on va faire deux épisodes. Aujourd'hui, plus sur le pourquoi devenir moins con, et la semaine prochaine, sur comment. Parenthèse, pour simplifier, on parle de couple cis-hétéro, parce que oui, les questions se posent différemment forcément pour un couple homo ou un homme trans-hétéro. Pour commencer, tu racontes que chaque fois que tu disais à un couple hétéro que tu étais en train d'écrire ce livre, leur réaction était la même. La femme hoche la tête genre « oui, je vois exactement de quoi tu parles » et acquiesce. Et le mec fait une grimace et ça part en discussion passif-agressif. Est-ce que tu peux nous raconter un exemple?
Oui, j'ai eu pas mal de discussions quand j'étais au Danemark ces deux dernières années, où j'étais d'ailleurs père au foyer. Et donc voilà, je disais, j'ai commencé ce livre sur ce thème et tout. Et puis, on avait par exemple des parents d'élèves de l'école de notre fils qui étaient là pour manger le soir. Et quand je donne le thème et que je dis le titre, il y a vraiment les... Il y avait comme ça, je me rappelle une soirée où il y avait deux mamans et leur mari qui étaient là. Et puis la maman qui fait « Ah, tiens, je vais t'en offrir quelques caisses à toi ». Et l'autre qui fait « Ah, c'est bon », et puis qui comme par hasard va chercher un truc dans le frigo à ce moment-là.
Et il y a eu ça très bien de quoi elle voulait parler, quoi.
Ouais, il y a eu pas mal de petits moments comme ça. Et...
J'avoue que je sais pas si j'oserais l'offrir à quelqu'un, parce que clairement, tu le traites indirectement de con.
Mais ça, c'est un thème très intéressant. Je sais pas si je peux rebondir directement sur, sur ce que tu dis, mais je me suis retrouvé, j'ai fait quelques interventions de présentation de livres en librairie. Ouais. Et notamment, j'étais à Strasbourg et il y avait un truc très intéressant. J'étais à côté de la caisse et puis les gens, la journée finissait, donc les gens achetaient des livres et tout. Et puis le livre était sur
le
présentoir au niveau de la caisse. Et il y a de nouveau une scène comme ça où il y a une femme qui a fait « Oh, mais c'est quoi ?» Et puis la libraire qui dit « Alors c'est ça ?» et tout. Il explique et puis les personnes ne savent pas que je suis l'auteur et que je suis assis juste à côté, quoi.
Ok.
Et justement, la femme dit « Ah, mais on a un anniversaire ce soir, ce serait trop bien qu'on l'amène un chéri à ton copain Thomas » ou je sais pas comment il s'appelait. Et vraiment, elle était hyper enthousiaste. Et puis le gars arrive, ouais, non, c'est bon, arrête. Enfin, c'est quoi ce truc? Et donc le titre était hyper clivant et souvent très intéressant du point de vue des femmes, et alors très très bloquant du point de vue des hommes, qui, je pense, s'imaginent que à cause du titre, ils vont se retrouver eux-mêmes à être insultés par le texte qui est à l'intérieur.
Ah oui.
Et je sais pas si toi tu t'es senti insulté quand tu l'as lu, mais en tout cas, la seule personne que je traite de con là-dedans, c'est moi-même. C'est moi qui suis au centre de ce récit. Et en fait, je trouve que ça confirme un petit peu un des propos du livre, qui est qu'on n'arrive pas à se remettre en question sur une donnée fondamentale, qui est qu'on a toujours envie, en toutes circonstances, de penser qu'on est un mec bien et que on se sent vite attaqué et déstabilisé dans notre valeur, dans notre estime de soi. Et on essaye de maintenir cette estime coûte que coûte.
Ouais.
Et donc même montrer un livre, parce que voilà, si on vous montre un livre, il va rien se passer d'affreux. Les femmes anticipent que ça va être trop compliqué, qu'elles vont devoir gérer une tempête, alors que c'est plutôt un acte d'amour et un acte de volonté de se connecter, d'avoir des discussions et de vivre
ensemble.
Oui,
après ça c'est pas forcément visible avec juste le titre, quoi, mais bien sûr que effectivement derrière un titre provocateur qui me fait mourir de rire d'ailleurs, insulter les gens pour après leur dire évidemment ironiquement je vais t'apprendre la vie, alors que c'est pas du tout le ton du livre. Et au contraire, justement, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est pas un livre qui fait la morale, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est factuel et bienveillant et plein d'empathie. Et toi, ouais, tu t'inclus justement dans ce but de devenir moins con, parce que on est tous un peu.
Complètement.
Oui, disclaimer aussi, Oui, deux mecs blancs hétéros cisgenres qui parlent de féminisme, c'est un sujet casse-gueule. Parce que d'un côté, on se dit que on ferait mieux de fermer notre bouche en favorisant l'expression des personnes sexisées, c'est ce que tu dis aussi dans le livre. Ce que toi, t'as fait pendant des années avec tes engagements et aussi en citant plein de ressources de minorités dans ton livre. Et moi, 95% de mes interviews sur le féminisme, c'est évidemment des femmes. Bref, mais de l'autre côté, si les mecs, on est le problème, on est aussi une partie de la solution. Et si on veut plus d'égalité, on a besoin que les mecs fassent leur part. Mais du coup, pourquoi en tant que mec, on réagit violemment quand on nous propose de devenir moins con? Tu dis, mais en vrai, ça veut dire d'être plus féministe, d'avoir plus d'égalité femme-homme.
Il y a beaucoup de façons de répondre à cette question. On est dans un moment aussi historique un peu tendu où beaucoup d'hommes s'imaginent que le féminisme est anti-homme, alors que pas du tout. Mais plus profondément que ça, il y a aussi le fait qu'on a appris à devenir homme. On a appris à avoir une certaine loyauté envers certains modes de pensée, modes de fonctionnement, on pourrait dire même le patriarcat, qui inclut notamment une dévalorisation du féminin, ou en tout cas une ambivalence par rapport au féminin, qui peut soit être valorisé pour certaines choses, notamment dans des questions de séduction, ou de faire famille, ou des choses comme ça, mais qui aussi... toujours soupçonné d'incompétence et d'exagération, parfois même d'idiotie, de futilité. Donc, quand on commence à avoir une discussion sur la façon dont nous pourrions être dans une posture où on pourrait s'améliorer, parce que j'ai dit à plusieurs personnes qui me demandaient comment parler de ça à des hommes, je dis, mais le titre dit moins con, et il présuppose pas d'à quel stade vous en êtes, donc même si vous êtes un féministe chevronné, vous n'êtes pas à 100% libre de toute connerie, même si vous êtes à 99%. Pas con, il reste quand même le petit pourcent, on peut faire une petite une action.
Vous pouvez dire plus intelligent si vous avez peur de froisser la personne.
Donc c'est vraiment pas une question de poser un diagnostic de catastrophique chez tout le monde, mais de dégager une logique, de changer son regard par rapport à ces questions.
Parce qu'on a peur qu'on pense du mal de nous en tant que mec, et comme on est convaincu d'être des mecs bien, n'importe quelle critique, c'est une attaque à notre identité ou à cette croyance en tout cas qu'on est des mecs bien.
Oui, et c'est déjà un problème que notre identité se repose là-dessus. Il y a plusieurs femmes qui m'ont dit, moi, si je vois un livre, comment devenir moins con, je me dis, trop cool, ça va m'apporter plein de trucs. Alors que nous, on n'a pas l'impression que ça va nous apporter ça. On a effectivement l'impression qu'on va être déstabilisé très, très profondément. Et pour moi, rattache à ce qu'on a appris de plus fondamental, c'est cette question de l'esquive perpétuelle, que ce qui caractérise beaucoup le comportement masculin et les conséquences inégalitaires, en fait, le fait qu'on n'arrive pas à avoir des comportements, malgré peut-être parfois le fait de faire beaucoup d'efforts aussi, parce que aussi le fait que moi, je suis surtout dans des situations, notamment la naissance d'un enfant, où j'étais tout le temps en train de faire des trucs, et puis j'avais l'impression qu'on me disait, c'est pas assez bien, c'est pas ce qu'il faut, et puis j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Donc, la question qui pour moi, synthétise tout ça, c'est vraiment cette question de l'esquive. On a appris à être, à se considérer comme l'être humain par défaut, auquel le monde s'adapte en général. Mais ça se traduit par notre capacité à esquiver des situations qui nous intéressent pas ou qui nous semblent trop pénibles, et à laisser les autres personnes, notamment les femmes, s'en occuper. Et en fait, une fois qu'on a cette idée de lecture sur comment je pratique l'esquive, comment je peux me rendre compte que je suis dans des comportements d'esquive, on commence à se raccrocher différemment à cette question du devenir moins con et à se sentir moins attaqué, parce qu'on se rend compte que ce qui nous est dit par les femmes, ce n'est pas « tu n'as aucune valeur et je n'apprécie pas la personne que tu es », mais je souhaiterais que tu arrives à entendre ce que je te dis et à avoir un regard plus proche de la réalité finalement.
La première étape pour devenir moins con, c'est de comprendre d'où on part, notamment qu'est-ce que notre père nous a appris. C'est bizarre de dire notre père, qu'est-ce que ton père t'a appris que c'était un homme, parce que c'est chacun notre premier modèle d'homme. Et parce que souvent, on a soit envie de l'imiter, soit en tout cas qui nous valide, qui soit fier de nous. Sauf que ce que ton père, toi Quentin, comme le mien, comme beaucoup de pères nous ont appris, t'écris « Avec mon père, j'ai appris qu'un homme ne parle pas de lui, qu'il travaille beaucoup. » Il n'exprime pas ses émotions, sauf la colère, ça en général c'est très clair, ne demande pas d'aide quand quelque chose va mal, mais par contre il crie jusqu'à ce que tout soit de nouveau en ordre, ou alors il s'absente. À l'extrême, ça donne des pères qui parlent pas ou qui abandonnent leurs enfants très tôt. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote du fils qui, une fois adulte, essaie de parler enfin avec son père de qu'est-ce qui t'anime dans ta vie, parce qu'il a jamais eu cette discussion avec lui en fait.
Oui, donc c'est quelqu'un que je connais très bien en fait, c'est un proche et qui m'a notamment fait réaliser aussi, lui et d'autres amis, que ce que moi j'avais considéré comme étant des choses très très uniques à mon père et très personnelles à lui étaient en fait des comportements et des façons d'être qui étaient très répandues chez les pères de mes amis, mais dont on ne se parlait pas ensemble, mais un jour j'ai découvert que c'était vraiment très fréquent et que l'image du père était vraiment quelque chose d'assez collectif, même si chaque personne est différente.
Ah bah moi quand tu parles de ton père, je suis là, mais comment il connaît mon père?
mais c'est fou, hein, c'est vraiment fou. Je me disais, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Tellement ça semblait caricatural. Et en fait non, c'est quand même ça quoi.
Mais c'est fou, c'est à convaincre que l'intime, est politique et
tout à fait,
et parfois universel quoi.
Je m'expose beaucoup dans ce livre et je parle de, finalement, de mon intimité, mais dans la mesure où elle est politique, je j'ai pas fait un texte voyeur où je dévoile des trucs personnels juste pour le plaisir.
Ah
dans
oui.
ces aspects intimes, il y a vraiment des dimensions politiques, c'est-à-dire des conséquences collectives de ces petites choses qui nous semblent très personnelles.
Il y a plein de micro-situations où au début, je suis là, ouais, c'est pas pour moi, et après, t'es là, ah, en fait, ah ouais, c'est vrai, moi, je suis comme ça dans cette situation, j'aurais pas pensé, quoi. On va en parler.
Ouais, on va en parler après. Mais l'exemple que tu me demandais, donc c'est en fait un ami assez proche qui, voilà, on avait fini l'université, et puis c'est le moment où la vie un peu se dessine, où tu fais des choix et se pose la question de, mais en fait, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui donne du sens, et tu te retournes vers les modèles que tu as, donc tes parents souvent. Et il avait un père qui était une figure dans son domaine, qui était vraiment quelqu'un de réputé, qui avait beaucoup de goûts musicaux. Tu voyais qu'il avait une vie intérieure très riche, même s'il parlait pas de lui, par ses actions, par ses goûts culturels. Et donc, t'avais envie de savoir, en fait, lui, il avait envie de savoir, mais qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi le sens de tout ça pour toi? Comment tu fais pour surmonter tes obstacles? Qu'est-ce que ça te fait sentir? Et puis, il lui a répondu, écoute, on parlera de ça quand tu seras indépendant. Avant, on parle pas de ça. Donc d'abord, tu fais ta carrière ou enfin voilà, tu t'installes et quand je sentirai que t'es indépendant, alors on pourra parler. Puis malheureusement son père est tombé malade et décédé d'une maladie qui l'a vraiment emporté très rapidement en 2-3 mois quoi, et donc ils ont jamais pu avoir cette discussion, et donc cet ami reste avec un vide qu'il peut pas combler, parce que la personne qui a été celle dont il avait besoin d'avoir une validation et une espèce de vue presque philosophique sur la vie, sur le sens des choses, n'a pas pu être donnée pour des raisons qui sont liées à la masculinité, je pense, cette exigence d'avoir une stabilité économique, être indépendant, c'est une phrase qui englobe beaucoup de choses, hein. Il y a quoi il y a quoi comme valeur derrière, hein. Il y a
la valeur économique, la valeur productive.
Voilà, soit pas dépendant, soit pas vulnérable, soit productif. Voilà, c'était assez triste quand je repense à cette histoire, et je suis triste pour lui.
Moi, c'est important régulièrement de rappeler, même si évidemment les conséquences du patriarcat et du sexisme sont pas comparables entre les conséquences sur les femmes et sur les mecs, mais évidemment de rappeler que les mecs en souffrent aussi par moment, quoi. Tu racontais une autre histoire avec un père malade.
Oui, donc j'ai un autre ami dont le père a, je pense que c'était un cancer, mais voilà, il a une maladie qui n'a pas pu être soignée, il n'a pas pu être soigné parce qu'il a tué cette maladie le plus longtemps possible. Il a eu cette posture de j'encaisse, je suis un homme,
j'ai pas besoin d'aller voir un médecin.
Voilà, je fais ce qu'on appelle le non-recours aux soins. Je peux m'en sortir tout seul ou je sais que je m'en sortirai pas, mais en tout cas, ça va se faire sans aveu de faiblesse, sans demander de l'aide à qui que ce soit, ni à mes proches.
Mais je veux pas embêter ma famille avec ça, peut-être. Ça peut partir d'une bonne intention.
Ouais, et en même temps, c'est une bonne intention qu'il faut déconstruire, parce que le fait de pas vouloir être un poids pour les autres est déjà une loyauté envers une exigence de force, de performance, tu vois.
Ah bah oui, et puis ça crée plus de dégâts que...
Ah, voilà. Oui. Et donc, à un moment donné, cette maladie l'a rattrapé, il pouvait plus fonctionner et elle a été découverte trop tard pour pouvoir être soignée en mode d'avoir un acte curatif. Alors, je sais pas s'il avait parlé plus tôt, est-ce qu'effectivement sa maladie aurait pu être guérie, mais en tout cas, il aurait pu avoir le soutien de ses proches et eux auraient pu aussi vivre ça autrement que comme un choc soudain.
Oui.
Et il aurait peut-être pu, voilà, échanger des choses avec sa famille. Il y a un autre exemple qui, moi, je sais pas si je peux enchaîner avec ça, mais qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Au moment où j'étais sur Facebook en train de prendre un peu les nouvelles de mes amis, et puis, je vois passer dans le fil l'image d'un couple que je connais avec le mari qui a une jambe en moins, quoi, à l'hôpital. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a eu un accident de voiture ou je sais pas quoi? Eh ben, non, le scénario, c'est qu'en fait, il avait, je pense, du diabète. Qu'il a aussi, dont il se rendait compte qu'il allait pas bien, mais il a aussi fait le même acte de je ne dis rien à personne, j'encaisse, ça va passer. Et d'ailleurs, je peux parler de moi aussi parce que je l'ai fait aussi avec certaines maladies que j'ai eues. Et jusqu'au moment où c'était trop tard, et puis il a sa jambe s'est gangrénée et puis il s'est fait amputer de la jambe, quoi. Il est jeune, hein, il a entre 40 et 50 ans. Donc ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est fou, ça va quand même. Parfois, ça a des conséquences de dingue, quoi. C'est pas.
Et là, clairement, c'était évitable, quoi.
Ouais. Et puis moi, j'ai eu cette réflexion-là aussi quand j'ai. Donc je lis dans le livre que quand on est notre premier enfant et qu'en plus j'étais dans un moment professionnel très compliqué, enfin très très demandeur, j'ai commencé à avoir des migraines. Des migraines, c'est-à-dire des journées où je suis 16 heures dans le noir, à rien pouvoir faire, immobilisé, donc complètement voilà. Dysfonctionnel. Okay. J'ai quand même attendu, je sais pas, 2 ans et demi, peut-être même 3 ans, avant que ma femme me force à aller consulter quelqu'un de spécialiste, quoi. Parce que je me disais, non, moi, j'étais dans le même truc, j'étais dans le même truc, du style, c'est pas grave, je vais y arriver, c'est juste une question de que ça passe ou que. Enfin, je sais pas ce que je me disais, c'était même pas très thématisé, mais je voulais juste passer à travers, quoi.
Bon, on nous apprend pas aussi, à demander de l'aide, et en plus, en tant que père de famille, voilà, t'es censé être le roc sur lequel tout le monde se repose, et du coup, si le capitaine, entre guillemets, il montre qu'il est vulnérable, bah, t'as peur que tout le navire écoule, alors que pas du tout, quoi, mais.
Ouais. Et tu présupposes ça aussi, tu présupposes que tout le monde est dépendant de toi pour tout.
Ouais.
Alors que si tu interroges les gens, ils sont très heureux. Si tu interroges ta femme ou tes proches, ils sont très heureux de dire on a aussi envie de te soutenir. On t'aide
pas. Bien sûr.
Voilà.
Donc au départ, voilà ce que ça veut dire en fait, être un homme pour beaucoup d'hommes, quand on voit les points communs entre pas mal de nos pères, évidemment pas tous. Mais donc voilà, posez-vous la question, est-ce que c'est ça le modèle d'homme qui vous inspire, vous qui nous écoutez? C'est une vraie question à se poser. Vas-y.
Non, la question des modèles, parce qu'on parlait du modèle du père, mais la question des modèles, elle est aussi plus large, c'est-à-dire que tu m'as demandé au début pourquoi on est si on se sent si agressé par ce titre du livre, comment devenir moins con, et cette question qu'on pourrait nous amener en tant qu'homme.
Ouais.
J'ai aussi l'impression que c'est parce qu'on n'a pas de modèle entre guillemets de notre âge, de notre génération, d'hommes qui sont dans ce type de processus-là.
Ouais.
Et donc on n'arrive pas à se projeter non plus dans ce que ça pourrait vouloir dire. On a l'impression qu'on va vivre un déclassement, qu'on va se faire ridiculiser, ou qu'on va apparaître comme faible, ou notamment en comparaison des autres hommes qui ne le font pas, parce qu'il y a une compétition, j'en parle aussi dans le livre, une compétition permanente entre tous les hommes sur à peu près tout. Donc on a aussi peur de se faire déclasser à ce niveau-là. Et donc la question des modèles, elle est aussi très importante aujourd'hui.
Ouais, ou juste pouvoir imaginer un autre chemin de vie ou une autre manière d'incarner la masculinité que ce qu'on nous biberonne depuis qu'on est tout petit, quoi.
Exactement.
Je voulais commencer par parler du père, justement, pour montrer le côté empathique aussi de ta démarche, et qu'on est tous dans le même bateau. Voilà, tu parlais de tes migraines, on est tous un peu cons, à cacher une maladie ou quoi, à des degrés différents, mais quand même. On croit tous qu'on est des mecs bien, mais le point de départ, bah, voilà, c'est d'ouvrir les yeux sur plein de mini-situations où notre comportement pose problème, où on est un peu cons, comme tu dis. Donc, les mecs qui nous écoutaient, voilà, au fil de l'épisode, essayez de penser à dans quelle situation vous êtes un peu con, parce qu'on l'est un peu tous, même si forcément c'est pas le truc le plus agréable. Ça peut être quand tu te dis à toi-même le con, ou t'as déconné, mec. Quand tu t'excuses, pardon, j'ai vraiment été con sur ce coup-là. Ou si ta chérie te dit tu refais le con comme ça, c'est fini entre nous. Toi, tu te dis que tu savais que ton rapport aux femmes posait quelques problèmes, mais que tu parvenais pas à le changer, et que c'est ça qui a initié ta démarche. Est-ce que t'aurais un exemple à nous partager de l'impact négatif que ça avait sur ta vie, ce rapport aux femmes?
Oui, un impact négatif très clair, c'est que j'ai été déprimé, mais vraiment très très déprimé pendant un moment, parce que j'avais l'impression que je comprenais pas ce qui était en train de se jouer dans les relations que j'avais de couple, notamment, où j'avais l'impression de, je me considérais moi-même comme quelqu'un de à l'écoute, ouvert, en volonté de prendre soin de l'autre, et malgré tout, périodiquement, les relations s'effondraient d'un coup sans que je le voie vraiment arriver, ou alors je voulais pas me l'avouer, je sais pas très bien ce qui se passait, mais à un moment donné, ça se répétait, c'était vraiment comme un schéma. Et je me disais, mais j'ai perdu espoir, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait, pour pouvoir maintenir une relation où il y a de l'amour, où je me sens bien, où l'autre se sent bien. Donc ça, c'est une conséquence très concrète.
Tu auras un exemple précis de quelque chose qu'on t'aurait reproché ou de...
Alors, très, très clairement, la question de l'ouverture émotionnelle. On m'a beaucoup dit que c'était difficile de vivre avec moi parce que c'était très compliqué, il fallait me tirer les verres du nez tout le temps, et c'est toujours le cas d'ailleurs, ma femme me le dit encore de temps en temps, ça va mieux, mais juste pour comprendre ce qui se passe, t'en es où,
qu'est-ce qui se passe dans ta
tête, ça peut être voilà, est-ce que t'es heureux, est-ce que t'es pas heureux, est-ce que je t'ai heurté quand j'ai fait ça ou pas, juste avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui est présent. Et donc, au bout d'un moment, je parle dans le chapitre sur les émotions qu'on se place dans un continuum émotionnel, souvent les hommes, qui a un côté la colère et de l'autre côté, de façon tout aussi caricaturale peut-être, le saint, donc le sainteté, le moine bouddhiste, enfin le gazen, qui en fait est toujours compréhensif, est toujours à l'écoute, et qui s'énerve jamais. Et donc ça, c'est plutôt mon profil à moi. Mais qui du coup opère le même type de censure émotionnelle, c'est-à-dire que quand on est dans une relation et que dès qu'il y a un truc qui nous plaît pas ou qu'on considère qu'on n'a pas envie de gérer, ouais.
on gueule
pour faire retomber le machin et pour que l'autre recule, okay. On fait une censure émotionnelle et puis en fait on n'arrive pas à se connecter et ça peut marcher un temps, mais au bout d'un moment l'autre elle en a un peu marre de vivre avec quelqu'un qui s'énerve dès qu'il y a la moindre discussion un peu intime à avoir, mais le comportement opposé qui est de toujours dire oui je comprends, oui c'est bon, oui ça va, je vais faire tel sacrifice pour nous, voilà. Enfin, c'est la même chose, c'est-à-dire que enfin pour avoir accès à notre intériorité, à mon intériorité dans ma vie, on peut pas se contenter d'être toujours dans une posture de compréhension et ça peut aussi jouer le coup du si on te fait un reproche sur des bêtises qui sont quand même importantes, mais le ménage, le soin des enfants, la préparation des vacances, où on vient dire ah oui t'as pas fait, et tout de suite tu fais oui je suis désolé c'est ma faute nanana, tu coupes l'herbe sous le pied de l'autre qui peut pas aller vraiment te questionner sur ton attitude. D'esquive.
Pas juste exprimer sans mécontentement.
Voilà. Elle n'arrive pas à s'exprimer et elle se sent pas écoutée. Donc voilà, ce type de mécanisme-là se répétait beaucoup, alors que moi je pensais que je faisais des choses positives, que c'était une façon de prendre soin de la relation. Et en fait, non, j'ai dû changer de regard. Et c'est vraiment, je reviens avec cette idée que penser en termes de qu'est-ce que je fais pour esquiver des choses m'a permis aussi de changer ce regard et de comprendre ce qui n'allait pas en fait et que on peut pas se contenter. Parce qu'on sait que c'est, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais toxique de tout le temps s'énerver, aller dans l'attitude opposée qui est de tout le temps être dans l'acceptation ultime.
Oui, sans écouter.
Voilà, et je comprends, et c'est toujours, et moi en deuxième, et nanana, c'est aussi une forme de censure émotionnelle, et en fait,
oui,
la vraie démarche, c'est... Ouais, ou en tout cas se convaincre qu'on ne l'est pas peut-être, mais cultiver une vie émotionnelle et puis la partager avec des autres et comprendre ce que c'est que la charge émotionnelle que les autres, que nos compagnes notamment, mais aussi nos sœurs, nos collègues, encaissent, vient de là. C'est en cultivant une palette d'émotions, en comprenant l'émotionnel de façon plus large, qu'on arrive en fait à avoir des relations plus authentiques et où il y a de la friction. Mais qui tombe pas dans la censure par la colère ni son opposé, où il y a des vrais ajustements, où il y a des vraies rencontres, où il y a des vrais une vraie prise sur ce qui est en train de se jouer, quoi.
Ouais. Pour vous donner d'autres exemples, en lisant ton livre, je me suis reconnu dans plein de situations. En tout cas, ça m'a rappelé des choses. Voilà, par exemple, classique, mais voilà, quand on se retrouve dans ma famille, c'est toujours les femmes qui font plus la cuisine que les mecs. Ou en ce moment, c'est ma femme qui fait les nuits avec notre bébé parce qu'elle allaite, mais le matin, j'arrive pas à me lever pour prendre le relais, ce qui serait juste. Alors OK, le sommeil c'est un gros sujet chez moi, mais voilà, je sais que c'est pas juste pour elle qui s'en est occupée toute la nuit. Ou des fois elle me dit qu'elle est blessée parce que je réponds de manière sèche et je sais qu'en général moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été sec, donc j'ai l'impression qu'elle exagère, donc classique dévalorisation de la parole des femmes. Et d'habitude, elle me dit, voilà, plusieurs heures ou plusieurs jours après, je lui dis, mais donne-moi un exemple, je sais pas. Et une fois, elle me l'a dit vraiment juste après que je lui ai fait une remarque sèche. Et comme c'était tout frais, je me suis réentendu le dire, et ça m'a moi-même choqué à quel point mon ton était beaucoup plus sec que ce que j'avais eu l'impression ou l'intention peut-être de dire.
De dire.
Donc ça, c'est un truc que maintenant j'essaie de m'écouter davantage, elle de l'inciter à me faire la remarque tout de suite pour que je sois vraiment face à la fraîcheur de ce qui s'est passé pour me rendre compte que c'était inapproprié et pas nos mémoires déforment forcément ce dont on se souvient. En tout cas, voilà, c'est pour dire que évidemment, même quand on est engagé dans une démarche féministe, je suis pas parfait du tout. Le but, c'est pas non plus d'aller à l'autre extrême et de se victimiser ou bien de faire le snob meilleur que les autres. Le but, c'est d'améliorer les relations femmes-hommes. Et je comprends que c'est tentant de se dire, moi le premier, qu'on fait pas partie du problème parce que t'as violé personne, parce que tu fais la cuisine, parce que t'écoutes les podcasts féministes de Soif de Sens et que tu lis le bouquin de Quentin. Mais en fait, si. Est-ce que toi, récemment, t'as ouvert les yeux sur un comportement inapproprié que t'avais pas identifié jusqu'ici?
Je sais pas si je l'ai découvert récemment, mais il est devenu de plus en plus...
Évidemment.
Une source de préoccupation pour moi, c'est toute la question de la grossophobie. de ma perception intuitive et instantanée des personnes dites en surpoids, en particulier des femmes. Alors que je spontanément, je me considère aussi comme non discriminant vers des personnes en fonction de leur physique, tu vois, dans mes valeurs, c'est comme ça. Enfin, et en même temps, quand il y a eu un événement concret, je prends un exemple tout bête, mais donc je reviens à Bruxelles il y a quelques mois et je reprends le bus, et dans les bus bruxellois, il y a certains sièges qui sont plus larges et qui sont réservés aux personnes soit qui ont un petit enfant, soit qui ont plus de place parce qu'elles sont grosses. Et j'ai vu ce siège, je me suis dit, j'ai eu une petite réaction de « Ah, c'est bon, c'est exagéré ». Et ça a duré un quart de seconde. Et je me suis dit « Voilà, de nouveau, un billet qui ressort, ça va pas du tout ». J'ai des réactions où je dois me rattraper, où je dois me dire
« Il faut que je lâche un billet ». C'est quoi ton dialogue intérieur quand tu vois une personne grosse, quoi ?
Il y a eu plusieurs moments où je me suis surpris en train d'associer un élément de passivité ou de mollesse de caractère à une personne
grosse. De fainéantise, classique.
Ouais, ou de « Allez, vas-y, parle plus vite, explique-moi ton point », alors que je fais jamais ça avec des personnes, ou quasiment jamais ça avec des personnes qui sont pas grosses, tu vois. Comme si cette personne, du fait de son poids, avait des problèmes de réflexion. Enfin, ça n'a aucun sens, mais ça venait quand même. Donc voilà, en ce moment, j'essaie beaucoup de déconstruire ça. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts sur le sujet. Je me renseigne sur ce que les collectifs anti-grossophobie disent. Je suis très attentif à mes propres réactions pour comprendre ce qui se passe, en fait. Ouais.
Ok. Il y a un épisode sur la grossophobie, sur soif de sang, si jamais t'es curieux.
Je suis très curieux. Ouais. C'est cool.
J'aime beaucoup quand t'écris. Ce que les femmes ne disent pas, c'est qu'elles nous trouvent enfantins, ridicules dans notre démonstration virile et notre incapacité à ressentir nos émotions, épuisants dans notre maladresse domestique, nos esquives si prévisibles. Elles nous font pas confiance pour prendre soin des relations, les traiter d'égal à égal ou prendre des décisions, exactement comme on le fait avec un enfant. Je trouve ça tellement vrai, et pourtant, on n'en a tellement pas conscience, mais si on veut tellement être des mecs et des vrais bonhommes, pourquoi est-ce qu'on se comporte comme des enfants, quoi ?
Ouais. Ça va de pair avec le fait d'être dans l'esquive, c'est-à-dire qu'au final, on se présente pas comme personne qui va, j'appelle ça accountability dans le livre, mais ça veut dire rendre des comptes et être responsable jusqu'au bout. Et je vois ça tout le temps quand on est en interaction chez des amis ou des choses comme ça, ou quand il y a une discussion sur, je sais pas, ça peut être des bêtises, mais est-ce que tu peux aller chercher tel truc pour le repas ou je sais pas quoi, et que le gars il commence un peu à discuter, et à la fin, ok, c'est bon, et puis elle le fait. Elle a même pas envie de discuter parce qu'elle sait que ça va être des pinaillages, comme avec un gamin qui, voilà.
Et elle se dit, ça peut être la 32e fois que ça arrive.
Ouais, et que c'est tout le temps comme ça. Et puis, enfin, ça
refait. Elle va dire, mais non, j'allais le faire. Et bah oui, mais tu l'as pas fait.
Donc. Voilà, des trucs comme ça. Ou aussi des choses où, pour une fois, tu dis, je vais faire la lessive parce que je la fais jamais, ça va faire une bonne action. Et puis, en fait, tu sais tellement pas le faire qu'après, tu l'appelles parce que tu sais pas quel programme il faut mettre, quelle lessive, quel machin.
Et puis, on n'est pas censé le faire une fois de temps en temps pour faire une bonne action. On est censé le faire
tout à fait.
La moitié du temps.
Tout à fait. Donc, il y a plein de comportements ça qui sont très enfantins aussi. C'est les comportements où tu fais un effort, mais sans vraiment réfléchir à comment le faire, où tu n'es pas vraiment dans une empathie ou dans une analyse de la situation. Et quand on te dit, c'est pas ça qu'il fallait, tu te vexes et tu dis, c'est comme ça, je fais plus rien, quoi. Donc comme si tu marchais à la récompense, si on te caresse pas dans le sens du poil et qu'on t'offre une petite manette en chocolat, ça va pas. Ouais, et après on vient faire les gros durs et rouler des mécaniques, mais ça paraît ridicule parce que derrière la personne elle sait même pas remplir un lave-vaisselle, elle sait pas écouter une conversation sans s'imposer tout le temps. Donc ouais, moi je me suis retrouvé aussi parfois dans ce genre de situation où on faisait la remarque que j'arrivais pas vraiment à écouter, que j'attendais juste mon tour pour parler dans une discussion, et qu'au final c'est épuisant, c'est fatigant, et puis ça ne te donne pas envie, ça donne pas envie aux femmes qui me connaissent de me respecter particulièrement. Ça donne plus l'impression que t'as une charge dès que t'es dans la maison et qu'on peut pas te...
Je comprends quand toi tu dis ok, là je sais pas, j'abuse, faut que je fasse un effort et j'en sais rien, je vais cuisiner, et que derrière ta chérie elle te fait une remarque, je comprends que ça te sape le moral. Après faut dézoomer aussi et se rendre compte que pourquoi est-ce que c'est aussi rare que tu fasses à manger, quoi.
Oui, les discussions qui abordent la façon de faire en commun, les discussions qui sont des ajustements ou parfois même des reproches par exaspération, sont toujours difficiles à faire et on n'a pas vraiment l'habitude de les avoir. Quand je dis on, c'est à la fois les femmes avec nous et nous avec les femmes. Et donc on se retranche vite dans des esquives, dans des attitudes qui essaient de mettre vite fin à cette interaction, en lançant une contre-attaque, en niant, en faisant du zèle. c'est il y a tout un enjeu autour de enfin de pas se sentir attaqué, c'est ça que je veux dire, et de, en même temps, vraiment à l'écoute de d'améliorer comment on fait tout en fait, comment on fait à la fois comment on a une conversation, comment on apporte un soutien émotionnel à l'autre, comment oui. comment on remplit un lave-vaisselle, comment on change des draps, comment on fait des courses, comment on prépare le sac pour la sortie avec le bébé, comment on prend les rendez-vous chez le médecin, comment on réserve le train et à quelle heure pour aller en vacances.
Et puis des fois les femmes font des remarques de manière un peu agressive et parce que bah elles sont pas parfaites et elles sont pas tout le temps en mode communication non violente non plus, mais voilà. En même temps c'est aussi parce que si t'as de la frustration qui s'accumule de le truc classique des tâches ménagères ou gestion des enfants ou autre où tu prends sur toi et donc forcément le moment où t'as un petit reproche à faire, bah il y a plus de chances qu'ils partent de manière acerbe que de manière empathique quoi.
Oui, et c'est aussi parce qu'on enferme les femmes dans des rôles de soins, de care en anglais. Ouais. De communication douce, qu'elles doivent prendre soin de nos émotions. On a toujours on a vraiment beaucoup cette impression que
ouais, la charge émotionnelle.
Une femme pourquoi elle s'énerve, c'est quoi cette histoire, elle est pas censée faire ça. Et donc on assigne les femmes à un certain registre émotionnel et quand elles en sortent, tout d'un coup on est stabilisé et on leur reproche. Donc on voit pas qu'elles s'énervent. Il faut qu'elles se fassent des critiques, il faut qu'elles fassent de la diplomatie pour pas froisser nos émotions. Alors que nous dans le sens évidemment on ne fait pas ça.
Ça c'est donc, vraiment. Marquant, quoi.
Ouais.
Ouais, on impose nos émotions, notamment la colère, sans trop de précautions. Alors que de l'autre côté, vraiment, ça fait beaucoup d'efforts pour arrondir les angles, quoi.
Oui, et il y a une fatigue, et le fait de traiter comme un enfant, c'est une fatigue par rapport à ça. C'est-à-dire que quand chaque interaction doit se faire en anticipant
une
réaction émotionnelle de ton copain, moindre petit truc, c'est une charge mentale et émotionnelle énorme dont nous, on ne se rend pas compte. Et c'est vraiment un poids énorme dans une vie d'être avec ce type de charge sur soi, de charge d'organisation, mais aussi de charge de gestion des émotions de tout le monde. À la fois les émotions négatives mais aussi positives, c'est-à-dire que en tout cas j'ai vu chez moi dans mon couple mais aussi dans le couple d'autres amis que pour créer de la joie dans la famille c'est quand même les femmes qui se bougent, qui organisent des événements sociaux, qui prennent soin à ce que tout le monde y trouve son compte, qu'elles prévoient une petite activité à la fois pour les enfants, à la fois pour le mari, à la fois pour elles-mêmes, mais finalement elles ont pas le temps de le faire. Donc, mais c'est pas grave parce que comme ça les autres ont un bon moment. Donc c'est vraiment un truc qui prend une place dingue et qui fait que en tant que femme qui gère ça tout le temps, on n'a pas l'espace pour s'épanouir soi. Donc forcément au bout d'un moment quand on se retrouve réduite à la gestion d'autrui, à des tâches ménagères ou au travail, ça craque, quoi. C'est pas possible.
Alors justement, qu'est-ce que, en tant que mec, on a à y gagner? Parce que dans un monde idéal, on devrait changer juste par amour pour les femmes dans notre vie ou juste par respect, parce que on est des adultes responsables. Mais c'est clair que les mecs, on a des privilèges et donc bien sûr que les perdre, ça veut dire plus d'efforts, de tâches ménagères, plus de remise en question, plus de charge mentale, comme tu le dis. Tout écrit, sacrifier ses loisirs pour faire des lessives, qui ferait ça volontairement? Et il se trouve qu'il y a aussi des bénéfices cachés à agir pour plus d'égalité. Et en premier, toi tu dis que les femmes te font davantage confiance, parce que forcément, tant que tu essaies constamment de tout tourner à ton avantage, d'avoir le dernier mot ou d'esquiver les responsabilités, forcément les femmes te font moins confiance. Alors que si, comme tu dis, tu leur laisses de la place pour être elles-mêmes, il se passe des trucs magiques, quoi. Est-ce que toi, t'as un exemple à nous partager de cette transformation dans ta relation aux femmes?
Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Pour prendre un exemple très concret, je me suis souvent retrouvé dans des situations où pour faire des activités, des loisirs que j'avais envie de faire, que ce soit jouer en ligne avec des copains ou aller faire du sport ou des choses comme ça, je pouvais avoir des attitudes de rétention d'informations pour essayer de mettre devant le fait accompli que en fait ça va se passer maintenant et puis c'est comme ça. Et parce que si j'en parlais à l'avance, j'avais peur qu'on me dise non mais en fait il y a aussi tel truc à faire avant.
Il faut que t'ailles chercher le gosse à l'école.
Voilà, et puis du coup ça peut être possible. Et donc on rentre dans une espèce de jeu de soupçons mutuels permanents où chacun accepte à contre-cœur tout ce qui se passe pour l'autre, et donc c'est très pesant. Et effectivement, quand on se rend compte, quand je me suis rendu compte, je sais pas pour d'autres, mais que il y a peut-être une première impression initiale de, en fait, je fais pas ce que je veux quand je veux, mais que c'est un peu le but de comprendre que c'est pas comme ça qu'on se comporte de manière égalitaire et respectueuse, mais qu'on instaure une confiance où l'autre sait. Notre partenaire sait que on va être responsable et proactif et fiable et qu'elle a pas besoin de venir vérifier derrière nous si on a bien fait les choses ou si on les a fait tout court. assez rapidement, elle va, c'était mon expérience en tout cas, se soucier de notre bien-être au lieu de toujours, au lieu de s'attendre à ce que on se comporte en égoïste.
Lui mettre à l'envers, et, ouais.
Voilà, au lieu de partir du principe qu'on va être égoïste et qu'elle doit nous empêcher de nous échapper de la maison, je vais dire ça comme ça, les conversations deviennent plus honnêtes. On peut dire, ah ben j'aimerais bien, je sais pas, partir faire du vélo, et peut-être qu'elle va te dire, ah ben en fait, ce jour-là c'est pas tout à fait possible parce que j'aurais nanana, ou t'as oublié qu'on a tel rendez-vous chez le médecin pour le vaccin du petit, ou voilà.
Ouais.
Mais elle va doubler ça de, mais peut-être que tu pourrais le faire à tel autre moment. Donc la nature de la négociation quelque part change, et mon expérience à moi, c'est que assez rapidement, tout le monde se soucie du fait que l'autre ait son espace, même si c'est pas exactement toujours ce que je veux quand je veux. Ça c'est
ça, si ça crée une relation aussi beaucoup plus sereine, où t'es pas tout le temps en train de te méfier de l'autre, de suspecter.
Ouais, et on voit les choses sur le temps long aussi, c'est-à-dire que effectivement, bah, quand t'as un enfant et que t'as un bébé, peut-être que pendant quelques mois tu n'auras plus faire ton sport et que tu vas gagner 3-4 kilos et que tu te sentiras moins beau mec. Ok, mais à l'échelle d'une vie, c'est rien du tout, et t'auras très vite oublié ça quand tu recommenceras 6 mois après, parce que la situation sera un peu rétablie et que tu seras en confiance et que l'autre n'aura pas l'impression que tu l'abandonnes, parce que t'auras fait ce qu'il faut pour que ce soit pas le cas. Donc voilà, c'est un exemple concret. Après, il y a aussi d'autres dans les gains, entre guillemets. Alors, il y a des gains qui sont pour moi de l'ordre des convictions, d'apprendre à se comporter en accord avec ses valeurs, d'être plus juste avec les autres. Pour moi, c'est une motivation en tout cas. Et puis la confiance, elle s'étend aussi dans c'est aussi dans le type d'échange que tu peux avoir et des sujets que tu peux aborder et de ce que l'autre peut te livrer et
ouais.
Et sur quoi
on peut faire confiance. Il y a plein de choses dont elle osait peut-être pas te parler avant et que t'as des discussions beaucoup plus intimes et constructives, quoi.
Ouais, ou même si elle ne te parle pas de quelque chose, elle va pouvoir te dire pourquoi. Et ça devient intéressant aussi de savoir ça. Donc moi, j'ai aussi senti par cette confiance, un rapprochement, pas seulement vis-à-vis de ma compagne, mais aussi d'un milieu et d'amis masculins, parce que moi je me suis mis à être dans des communications plus transparentes, plus vulnérables, au sens où je pouvais parler de mon intériorité, de ce que je ressentais, de tristesse ou de joie d'ailleurs, les deux. Et progressivement, ça, t'as l'impression de mieux connaître la personne, que la personne te connaisse mieux, et que tu sens aussi comment être un vrai soutien pour les autres s'ils ont des difficultés ou des joies à partager.
Ouais.
Donc,
c'est aussi hyper gratifiant. C'est dans ces moments-là aussi que, bah, quand t'es capable d'être là pour ta chérie ou tes potes qui sont pas bien, bah, ça rapproche aussi les liens. C'est gratifiant d'aider les gens. Tu te sens utile. T'es plus acteur de ta vie. Donc, comme un adulte par rapport à un enfant, forcément, tu peux avoir un impact sur ce que t'as envie d'améliorer autour de toi, quoi.
Oui, il y a une qualité du lien, vraiment une question de cette qualité du lien qui change. Et c'est vrai qu'il y a aussi une question qui se pose, est-ce que ça va changer ma masculinité? Est-ce que je vais me sentir moins homme, moins masculin si je me mets à faire des tâches ménagères?
Ouais.
Et typiquement, des trucs de femme. Et puis, mon expérience à moi, c'est que c'est assez le contraire. C'est-à-dire que je pouvais me mentir dans le passé sur le fait que j'étais un mec bien parce que je savais ce qui était du rôle des femmes ou du rôle des hommes. Alors qu'en fait, quand tu comprends que t'es tout à fait capable de gérer un bébé de quelques mois qui pleure, qui a faim, qu'il faut changer, qu'il faut distraire, qu'il faut éduquer, que t'es tout à fait capable de gérer le flux du linge d'une famille de quatre, ce qui est une tâche en soi pour anticiper, quand t'es capable de préparer à manger de façon équilibrée pour tout le monde, pour que tout le monde soit en bonne santé, mais aussi ait du plaisir, et que t'as pas besoin tout le temps de demander à quelqu'un d'autre pour arriver à le faire, en fait, tu te sens hyper compétent.
Si on parlait d'indépendance masculine, bah
voilà,
c'est de l'indépendance.
C'est de la vraie indépendance, mais elle est quand même en lien aux autres parce que tu le fais pas juste pour toi.
Ouais.
Mais effectivement, t'es autonome dans ce que tu fais, et du coup, moi, ça m'a accompagné de sensations de, ouais, peut-être même de puissance, on peut dire, mais en tout cas de compétences, d'expertise. J'apprends plein de choses tout le temps, et j'ai l'impression d'évoluer en tant que personne, dans le sens où je suis pas dans mes mêmes obsessions tout le temps. Voilà, l'enfant il grandit, il y a des stades de développement, il y a la nutrition, il y a le sommeil, il y a enfin tout ce que tu veux, même en thème de mode, je prends des choses parce qu'il faut bien acheter des vêtements à ses enfants. Alors c'est mon point faible, souvent quand j'achète des vêtements, après ma femme me dit mais t'as aucun style, je ramène tout ça et je fais mon truc. Mais donc on peut pas gagner partout.
C'est marrant, donc, ça me fait vraiment penser à un parallèle très avec tout ce qui est start-up, gros hacking pour ceux qui connaissent, mais en tout cas dans les startups, on parle beaucoup de deux types d'état d'esprit. Fixed mindset, donc quand t'as un état d'esprit fixe de le monde est figé et peu évolutif, quoi. Growth mindset, donc un état d'esprit plus dans croissance, ou en tout cas, bah, je peux m'améliorer, les choses peuvent changer, et voir les choses comme un flux et pas comme un stock. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce côté-là quand tu reçois des critiques en tant que mec, de se dire, OK, bah, non, de toute façon, si on critique, c'est que, effectivement, je suis nul à chier, je suis pas un bon mec, etc. Donc, je vais rejeter la critique directement. Au lieu de se dire, bah, OK, c'est possible que je fais de la merde et je vais m'améliorer, ou c'est possible que je sois pas d'accord avec ce que la personne me dit, mais en tout cas, je vais l'écouter et me faire mon propre avis après. Enfin, voilà, j'avais jamais pensé à ce parallèle qui peut parler à beaucoup de mecs, justement, qui sont en mode entrepreneurial, startup. Quoi.
Oui, et c'est une des façons que j'ai eu d'écrire le livre aussi, c'est de bien insister sur le fait que je ne propose pas de voir ça comme une espèce de parcours d'un point A à un point B où à la fin, t'es une ligne d'arrivée et puis t'as tout gagné, c'est bon.
T'as une médaille du mec gentil.
Voilà, du gars qui a réussi sa déconstruction ou qui a tout compris, qui est le bon féministe, ou c'est pas du tout l'enjeu de ce livre et de cette démarche. C'est plus comme tu dis, croissance et growth. Moi, j'appelle ça comme le point de départ. On le mentionnait tout à l'heure, c'est qu'on a fait des apprentissages depuis qu'on est enfant sur ce que c'est que la masculinité, sur ce que c'est de se comporter en tant qu'homme.
Ouais.
Qu'on peut conscientiser ces apprentissages, on peut les désapprendre ou en désapprendre certains aspects, parce que tout n'est pas forcément négatif. Hein. Être fort, ça peut être très bien dans plein de situations.
Bah oui,
ça peut aussi être très
famille,
bien que des femmes puissent être fortes. C'est pas parce que on a appris à être fort que c'est forcément mauvais. Enfin, c'est pas du tout le propos.
Ouais.
Mais comme on peut comprendre comment ces apprentissages nous placent dans des positions où on se sent le droit d'esquiver, où on se sent le droit de pas écouter, enfin voilà, on peut aussi réapprendre autrement. Et donc cette perspective de l'apprentissage perpétuel, elle est importante. Et c'est vrai qu'elle peut avoir quand on parle comme ça quand j'en parle comme ça à des amis ou à des hommes. Un aspect un peu genre, mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Est-ce que rien n'est jamais assez bien? Est-ce que toute ma vie, je vais devoir me flageller et apprendre des nouvelles choses parce que je suis toujours trop mauvais? C'est pas ça non plus. C'est pas l'histoire de dire que c'est une grosse montagne qui vous tombe dessus. J'ai un ami qui un jour m'a dit, j'ai commencé à écouter le podcast de Victoire Tuaillon, Les couilles sur la table. Il y a 65 épisodes, mais j'arriverai jamais à faire tout ça si je veux m'améliorer en tant qu'homme. Donc, cette idée que si on n'arrive pas à un point défini, c'est qu'on s'en sortira jamais, que ça va être trop dur. Mais en fait, dès qu'on se met à réussir à parler de ces choses de façon constructive et sans se vexer comme un pou et avoir peur du déclassement, en fait, ça se décante. Quand on arrive à avoir une richesse émotionnelle, ça se décante assez bien. Et puis, ce qui arrive au fur et à mesure dans la vie après, c'est pas à chaque fois des trucs énormes qu'il faut gérer en se prenant la tête à fond. Enfin, ça peut avoir des tout petits ajustements. Donc c'est pas qu'on passe toute la journée, toute sa vie à se dire comment je peux être meilleur parce que je suis une grosse merde. Pas du tout, quoi. Mais c'est vrai
que ça aurait pu être le titre du livre.
Mais il y a une phase d'amorçage, effectivement, si c'est quelque chose qui a pas du tout été travaillé avant et que, comme tu disais par rapport à ta compagne, dis-moi plus rapidement si tu vois que je suis sec avec toi, un truc comme ça. Au début, bah, ça peut sortir fort, quoi. Ça peut arriver, ça peut créer de la douleur. Ouais. On peut se recroqueviller, et puis c'est pas grave si on se recroqueville au début. Je dis pas non plus qu'il faut, je ne dis pas quelle attitude il faut avoir, en fait. Il faut s'écouter surtout. Mais l'important, c'est que derrière, si on a une réaction défensive, on soit responsable par rapport à cette réaction défensive, on puisse revenir en disant, voilà, j'ai une réaction défensive, j'ai pas pu l'éviter, je suis vraiment désolé, mais ça veut pas dire que je veux pas t'écouter. Et on recommence, et au bout d'un moment, on trouve sa façon de fonctionner, elle est propre à chaque personne, elle est propre à chaque relation.
Moi, ça résonne avec une citation de l'abbé Pierre qui dit, il faut pas attendre d'être parfait pour s'engager, quoi. Donc c'est évidemment ça. Un des freins au changement, c'est cette solidarité masculine à tout prix. T'écris que devenir féministe, des fois t'as l'impression de devenir un traître, mais en gardant tes couilles sur la table. Par exemple, quand tu reçois des amis mecs chez toi et que leur femme voit tout ce que tu fais, j'imagine en cuisine par exemple, ou dans tes engagements féministes, tes potes te regardent en mode putain, mais arrête, ça va se voir que j'en fais pas, que j'en branle pas une. Et un jour, un ami t'a même dit, fais gaffe, ce que tu dis a des conséquences, à chaque fois qu'on te voit, c'est la merde. Donc, j'imagine qu'après eux, ils s'engueulent dans leur couple derrière. Mais on trahit quoi exactement à s'engager pour l'égalité?
On trahit la loyauté au patriarcat, mais ce que je veux dire par là, c'est que on met en lumière le fait que, en tant qu'homme, dans nos sociétés, et je pense dans beaucoup de sociétés, on a cette autorisation à esquiver, à décider ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse pas, et à esquiver, et les femmes socialement se retrouvent un peu obligées et investies de la mission de rattraper tout ce qu'on fait pas. C'est arrivé plusieurs fois, et sans que j'essaye d'être démonstratif ou ostensible, c'était juste la façon qu'on a d'être avec mon épouse. ça a créé ce genre de moment où
oui, t'étais pas en train de frimer. Parfois...
non, voilà.
Et elle justement, ça fait miroir,
son côté des amis à elle, femmes qui lui ont dit mais en fait c'est dingue, ça se passe comme ça chez toi.
Et mais bon, c'est
il se trouve par exemple, il se trouve que c'est moi qui fais à manger. Okay. C'est parce que j'aime ça, etc. Et elle a des amis qui lui ont dit mais tu fais jamais à manger, quel luxe. Enfin voilà. Donc il y a eu des petits moments comme ça. Il y a eu d'autres réflexions qui étaient plus sur des aspects où. Ou simplement dans une discussion avant de me lancer dans quelque chose, même si on avait prévu que je le fasse, par exemple faire une partie en ligne avec des copains, je m'assurais quand même que qu'elle allait bien en fait, tout simplement, que c'était toujours ok, que je disparaissais pas juste faire mon truc sans rien demander. Ouais. Et voilà, et puis ça pouvait se noter.
D'accord.
Ne pas rigoler à certaines blagues peut aussi créer ce genre de.
Ouais.
D'ambiance. On a vécu quelques dîners aussi avec ma femme où ça pouvait devenir tendu avec des invités sur des questions féministes ou des hommes qui disent des choses sans se rendre compte. Une fois, on a eu un dîner où quelqu'un a dit ah, moi je comprends pas pourquoi les femmes insistent pour qu'on féminise leur métier, pourquoi les avocates veulent être avocates et pas avocates, une femme avocate c'est très bien. Voilà, péremptoire, c'est comme ça. Et puis les femmes essayaient de lui dire bah si, il y a peut-être des raisons et tout, et puis t'es complètement fermé. Et ils se retournent vers les hommes pour voir un peu de soutien, quoi. Camaraderie, ouais. Nanana, et puis moi je suis là, genre, je suis pas du tout d'accord avec toi. Et du coup, grosse crispation, enfin voilà. Et donc, ouais, ça arrive. Enfin, je vois là, chacun est dans un groupe d'amis différents. Je veux pas exagérer non plus cette sensation de traître, hein. Je me suis pas retrouvé paria, où on me parle plus. J'ai quand même eu quelques éloignements à travers les années. Donc, je sais pas exactement à quoi ils sont dus, mais je pense que ça a pu jouer un rôle avec des personnes qui étaient effectivement très dans le poster Playboy dans la chambre, des choses comme ça, tu vois.
Mais à 40 ans.
Non, c'était plutôt, mais après, c'était sur d'autres comportements aussi.
Mais oui, je vois.
Juste, par exemple, le fait de, j'ai l'impression, après, je ne connais pas la vérité, que je me suis éloigné avec certains hommes, parce que le fait que je m'intéresse à ces thèmes-là était suspect. Okay. Que je lisais des livres, que j'écoute des podcasts, enfin voilà, même avant que j'écrive ce livre, je veux dire, hein, c'était sortir okay. de l'habitude où on glorifie d'autres choses, où on est dans le divertissement, on parle surtout pas de nos responsabilités en tant que homme dans la société. Ouais. Quand tu commences à le faire, c'est chiant, c'est relou, voilà.
Merci Quentin. Ton livre Devenir moins con en 10 étapes est dispo partout en librairie ou sur le lien en description. Et si cet épisode t'a plu, bah abonne-toi pour la deuxième partie qui sort dimanche prochain sur comment devenir moins con avec plein de stratégies pour vous aider. Ciao tout le monde, ciao Quentin, à dimanche prochain.
Salut.